À l'étranger où ma maladie m'a retenu 5 ans, j'ai aimé mon pays chaque jour un peu plus. On y parlait de grandes réformes, d'une solidarité qui donnerait une chance de bonheur égale à tous. Ces mots qui font rêver sont sur vos lèvres, mais dans vos cœurs ils n'ont pas d'écho. Avec quelle bonne volonté je me suis mis en route. Et je n'ai rencontré partout qu'hypocrisie, petitesse, insouciance.
Ça peut pas faire de mal.
Vous, et vous, vous tous, savez-vous sur quelle mince couche de glace vous patinez? Quel gouffre est en dessous? Quelle catastrophe vous attend?
Mes chers amis, excusez le prince, depuis sa maladie, il vit dans un état de grande surexcitation.
Il ne sait pas ce qu'il dit.
Laisse, nos amis ont parfaitement compris.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
À la fin du mois de novembre, par un redout, sur les 9h du matin, le train de la ligne de chemin de fer Pétersbourg-Varsovie fonçait à toute vapeur vers Pétersbourg. L'humidité et la brume étaient si denses que le jour avait eu du mal à se lever. Dès l'aube, deux passagers s'étaient retrouvés face à face, près de la fenêtre. Tous deux des hommes jeunes, tous deux quasiment sans bagages, tous deux habillés sans recherche, tous deux assez remarquablement typés, et qui, tous deux, avaient finalement éprouvé le désir d'engager la conversation l'un avec l'autre. S'ils avaient su, tous deux, qui étaient l'un et l'autre, et ce qui les rendait si remarquables à cet instant, ils auraient eu de quoi s'étonner, bien sûr, de ce que le hasard les eût placés si étrangement l'un en face de l'autre dans ce wagon de troisième de la ligne Pétersbourg-Varsovie. Ainsi commence l'un des grands romans de Fyodor Dostoïevski, L'Idiot, publié en 1869. L'histoire d'un naïf venu d'ailleurs, humble et soucieux des autres. Il s'appelle Mishkin. C'est un prince. Il est blond, la vingtaine. Et il a l'envie farouche de se faire une place parmi les hommes. Après 5 années passées en Suisse pour soigner son épilepsie, il a décidé de revenir en Russie. Dans le train qui l'emmène à Pétersbourg, il rencontre Rogojin. Même âge que lui, brun, plutôt sanguin, et fou amoureux d'une certaine Nastassia Philipovna. Cette femme va bientôt devenir l'enjeu principal de leur amitié naissante. Introduit dans une société avide de pouvoir et d'argent, Mishkin étonne tout le monde par son mélange d'innocence et de sagesse. Sans argent et muni d'un simple baluchon, il séduit la fameuse Nastassia et intrigue la belle Aglaïa, fille d'un parent éloigné. Véritable tragédie d'un homme vrai dans un monde faux, L'Idiot est un livre qui se lit, d'après son traducteur André Markowitz, avec une respiration particulière, jamais à plein poumon, toujours en haletant. Ce soir donc, après Crime et Châtiment, partons à la découverte de cet idiot, un homme parfaitement bon, un autre Don Quichotte sans cesse à la limite du ridicule et du sublime. Les voyageurs sont arrivés à Pétersbourg. Rogojin et Mishkin, rejoints par un troisième voyageur, Lebedev, se sont tout racontés et doivent maintenant se dire au revoir. Livre 1, chapitre 1. Le train était en gare. Les gens criaient et agitaient leurs chapeaux. Rogojin se retourna brusquement vers le prince. « Prince, je sais pourquoi je t'ai aimé tout de suite. Peut-être c'est que je t'ai rencontré à un moment pareil. Viens me voir chez moi, prince. Tes petites guêtres, là, on va te les enlever. Je te mettrai une pelisse en zibeline du premier choix. Je te ferai faire un frac du premier choix, avec un gilet blanc, ou quelle couleur tu veux. Je te bourrerai d'argent plein les poches. Et on ira voir Nastassia Philipovna. Tu viendras, oui ou non ?» Le prince Mishkin se leva, tendit poliment la main à Rogojin et lui répondit aimablement. « C'est avec le plus grand plaisir que je viendrai et je vous remercie beaucoup de m'avoir aimé. Même peut-être, je viendrai dès aujourd'hui si j'ai le temps. Parce que, je vous le dis sincèrement, vous aussi, vous m'avez beaucoup plu, bien que vous ayez un visage très sombre. Je vous remercie aussi pour les habits et la pelisse que vous me promettez, parce que c'est vrai que j'en aurai bientôt besoin. Et comme argent, à l'heure où je vous parle, je n'ai pour ainsi dire pas le sou.
L'argent, il y en aura. Il y en aura pour ce soir. Arrive. Et pour ce qui est du sexe faible, vous, prince, vous êtes un grand amateur ? Moi? Non. Vous ne savez pas peut-être, mais j'ai cette maladie congénitale et je ne connais même pas du tout les femmes.
Si c'est ça, s'exclama Rogojine. T'es un vrai folon Christ, prince. Dieu aime les gens comme toi.
Mishkin, qui ne connaît personne en Russie, a une adresse en poche, celle de la générale Epanchine, issue de la même lignée princière que lui. Son époux, Ivan Fedorovitch, est un grand propriétaire. Ils ont trois filles, Alexandra, Adélaïda et la belle Aglaïa. Mishkin frappe à leur porte à l'improviste. Il espère faire connaissance avec ceux qu'il considère comme sa famille. Le général, d'abord sceptique de voir un inconnu débarquer sans prévenir, le reçoit et remarque ses qualités d'écriture.
Vous êtes vraiment le prince Mishkin?
La chose paraît décidément bien difficile à croire. Mais c'est ainsi.
Pourquoi, je n'en sais rien, mais je vous croyais mort.
J'ai été malade très longtemps.
Une sorte de lymphatisme, si je me souviens bien.
Le terme est aimable. En vérité, mon intelligence a été longue à s'éveiller. Mais le médecin prétend qu'il m'a guéri. Je suis venu de Lausanne à Saint-Pétersbourg directement. Je ne connais plus personne et ma première pensée...
C'est trop gentil. Enfin, deux et deux font quatre. Vous n'avez plus d'argent, plus de situation. Qu'espérez-vous de moi?
Rien.
Puis il lui présente Gania, son jeune secrétaire, fiancé à une femme dont il tient dans ses mains le portrait, Nastassia Philipovna, celle dont Rogojine lui a parlé dans le train. Enfin, le général Epanchine demande à sa femme et ses filles de le recevoir. Mais la générale n'en a aucune envie. Livre 1, chapitre 5.
Recevoir? Vous dites le recevoir là, maintenant, tout de suite?
La générale écarquilla les yeux de toutes ses forces sur son époux, lequel s'agitait devant elle.
Si seulement, mon ami, il te plaît de le voir, se hâta d'expliquer le général. Un vrai enfant, et pitoyable même un peu. Il est malade, il a des crises, des choses comme ça. Il arrive de Suisse, il sort du train, des vêtements bizarres, pas un copec, littéralement. Il pleure presque. Mesdames, je vous demande de le restaurer un peu, il crève de faim.
Il crève de faim et des crises, poursuivait la générale, mais quoi comme crise?
Oh, ça lui arrive rarement. Je voulais, mesdames, vous demander de lui faire passer un examen pour être un peu fixé, savoir ce qu'il est capable de faire.
Un examen? Fit la générale en traînant la voix en proie à la plus grande stupéfaction.
Oh, mon ami, ne va pas chercher un sens qui... Enfin, c'est comme tu veux. Moi, je pensais le choyer un peu et l'introduire chez nous, parce que c'est presque une bonne action.
L'introduire chez nous? De Suisse?
La Suisse n'a rien à voir là-dedans. Moi, je te dis ça d'abord parce que vous avez le même nom, et puis qu'il est à la rue. Et on a beau dire, il est de notre famille.
Bon, il faudra absolument lui mettre une serviette autour du cou quand il viendra à table. Appelez Fédor, ou bien Mavra, et qu'elle reste derrière lui, qu'elle le surveille quand il mange. Il est tranquille, au moins, pendant ces crises. Il ne fait pas de gestes. Au contraire, il est même très bien élevé.
Voilà, très cher, je vous le recommande. Pour moi, vous m'excuserez, je suis en retard, je cours.
On le sait où vous courez, dit la générale d'une voix grave. Je cours, mon ami, je cours. Et puis, mesdames, donnez-lui vos albums, qu'il y mette quelque chose. Quel calligraphe! C'est une perle. Là-bas, au bureau, il m'a fait une signature médiévale. L'igoumène Pafnouti appose à la main.
Pafnouti?
L'igoumène? Mais attendez, où est-ce que vous courez? Et qu'est-ce que c'est que ce Pafnouti? Cria avec un dépit appuyé, pour ne pas dire une inquiétude, la générale à son époux qui s'enfuyait. Mishkin se retrouve à la table de la générale entouré de ses trois filles. Un peu intimidé, on le met rapidement à l'aise en lui demandant de raconter son histoire. Qui est-il? D'où vient-il? Mishkin s'appelle Léon Nikolaevitch. Il sait ce qu'est le bonheur. Il aime se perdre dans la nature pour rêver et espère que la beauté sauvera le monde. Un jour, il a vu un homme se faire couper la tête et il a tout compris. La vie, la mort, la seconde où tout bascule. Il n'a pas d'ambition particulière, à part tenter de mener une vie simple et heureuse, si possible entouré d'enfants qui sont son remède contre la méchanceté du monde.
Souvent devant des inconnus qu'ils aperçoivent pour la première fois, les enfants ont un cri qui épouvante les grandes personnes. Ils raisonnent mal, mais ils sentent juste. Je suis un peu comme eux.
Ça vient de Suisse?
C'est un cadeau que m'ont fait des enfants. Les seuls amis que j'avais là-bas. Chaque fois que j'entends le coucou, j'entends leur voix.
Logé chez Gagna, embauché par Epanchine, apprécié de la générale et de ses filles, Mishkine intègre peu à peu le cercle pétersbourgeois, découvrant les dangers de l'argent et de la boisson. Où qu'il aille, on ne lui parle que de Nastasia Filipovna, objet de tous les désirs. Totski, le tuteur de la jeune fille, Gagna, Rogojin, mais aussi Epanchine veulent posséder cette beauté étrange. Mishkine aussi est intrigué par la jeune femme et par Aglaya, la benjamine des Epanchine. Un jour, Nastasia arrive chez Gagna pour rencontrer sa future belle-famille. Mishkine, pris pour un domestique, l'accueille et la reconnaît immédiatement.
La sonnette ne marche pas. Qu'est-ce que tu attends pour la raccommoder? Tu pourrais m'aider. Tu dors? Tu rêves debout? Qu'est-ce qu'on attend pour te flanquer à la porte?
Excusez-moi, Nastasia Filipovna.
Tu me connais? Comment me connais-tu? D'ailleurs, ça m'est égal. Va m'annoncer.
Au même instant, arrive Rogojin. Il veut devancer Gagna et tend à Nastasia une liasse de billets de banque, la somme qu'il est prêt à mettre pour l'épouser. Mishkine est choqué de voir comment son nouvel ami tente d'acheter cette femme, comment les hommes ne la respectent pas. Nastasia, elle, est amusée. Elle dénigre cet argent, repousse Gagna et donne rendez-vous à tout le monde chez elle le soir même pour fêter son anniversaire. Mishkine, sans invitation officielle, décide de s'y rendre tout seul. Rogojin lui promet de revenir avec 100 000 roubles en poche. Le prince arrive sur place, tout le monde le regarde avec dédain. Puis un groupe entre dans le salon. C'est Rogojin, accompagné de ses amis, qui dépose devant Nastasia un gros paquet ficelé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Nastasia après avoir toisé Rogojin d'un regard fixe et curieux en indiquant des yeux l'objet. « 100 000 », répondit celui-ci, chuchotant presque. « Ah, il a tenu parole !» dit Nastasia. Puis Rogojin s'assied et commença à regarder les invités. Apercevant Gagna, il eut un sourire fielleux et murmura pour lui-même « Oula !» Mais quand il remarqua le prince auprès de Nastasia, il fut longtemps incapable de le quitter des yeux, saisi de l'étonnement le plus profond. On pouvait soupçonner par instant qu'il était réellement dans un accès de délire. « Ça, messieurs, c'est 100 000 », dit Nastasia, s'adressant à tous avec une sorte de défi impatient et fébrile. « Là, dans ce paquet sale. Tout à l'heure, il m'a crié comme un fou qu'il m'apporterait 100 000 pour ce soir. Et moi, tout ce temps, je l'attendais. C'est lui qui me marchandait. » Il a commencé par 18 000, puis 40, puis il est passé à 100. Il a tenu parole quand même. Regardez comme il est pâle. Il m'estime à 100 000. Que ça me dégoûte, ça. Nastasia Filipovna interrompit un convive. Vous êtes là, vous vous plaignez, mais regardez un peu le prince. Moi, ça fait longtemps que je l'observe. Nastasia se tourna vers le prince d'un air curieux. Lui, il veut bien vous prendre, continua-t-il.
C'est vrai ? Demanda-t-elle.
Oui, chuchota le prince.
Vous me prendrez comme je suis ? Sans rien ?
Oui, Nastasia Filipovna. C'est avec un regard douloureux, sévère et perçant que le prince fixait le visage de Nastasia Filipovna, laquelle continuait de l'observer. En voilà un autre. Et lui, c'est vrai que c'est parce qu'il a bon cœur, je le connais. Mais avec quoi tu vivras ? Si tu m'aimes tellement, si tu me prends, moi, à Rogojin, pour toi. Je vous prends honnête, Nastasia Filipovna. Pas comme une fille à Rogojin, dit le prince.
Moi, je suis honnête?
Oui.
Ça, tu l'as lu dans les livres. Ça, mon bon prince, c'est des vieux délires. Le monde, maintenant, il l'a dépassé, ça, c'est des sornettes. Et puis comment tu irais te marier quand c'est toi-même qui as encore besoin d'une nourrice ?
Le prince se leva et d'une voix tremblante, timide, il parla. « Je ne connais rien, Nastasia Filipovna. Je n'ai rien vu, vous avez raison, mais je penserai que c'est vous qui me faites honneur, pas moi. Moi, je ne suis rien. Vous, vous avez souffert et d'un enfer pareil, vous êtes sorti pur
et c'est beaucoup. Pourquoi avez-vous honte? Pourquoi voulez-vous suivre Rogojine? C'est votre fièvre. Nastassia Philippovna, je vous aime. Je mourrai pour vous, Nastassia. Je ne laisserai personne dire un seul mot sur vous, Nastassia. Si nous sommes pauvres, je travaillerai, Nastassia Philippovna. À ces mots, on entendit des ricanements dans l'assistance. Pourtant, peut-être que nous ne serons pas pauvres, mais très riches, Nastassia Philippovna, poursuivait le prince de sa même voix timide. Cela, évidemment, je n'en suis pas sûr, et c'est dommage que, jusqu'à présent, je n'ai rien pu savoir de toute cette journée, mais j'ai reçu en Suisse une lettre de Moscou d'un monsieur Salaskin, et il m'annonce que, soi-disant, j'ai fait un très gros héritage. Cette lettre, la voilà. Le prince sortit vraiment une lettre de sa poche, et il y eut là comme un instant de silence. Vous avez dit, prince, me semble-t-il, que cette lettre vous vient de Salaskin, demanda Pitstin, l'un des invités. C'est un homme très connu dans son milieu. Si c'est vraiment lui qui vous l'annonce, vous pouvez tout à fait lui faire confiance. Par bonheur, je connais son écriture, j'ai traité avec lui il y a peu. Si vous me permettiez de jeter un coup d'œil. Le prince, sans rien dire, d'une main tremblante, lui tendit la lettre. Qu'est-ce que c'est ? Murmura le général, lançant des regards de fou sur tout le monde. Il hérite vraiment ? « L'affaire est sûre, » déclara enfin Ptitsin, repliant la lettre et la rendant au prince. « Vous recevez par testament spirituel indiscutable de votre tante un capital très important. »« Pas possible, » s'écria le général. Toutes les bouches s'ouvrirent à nouveau. « Donc c'est vrai ? Une princesse ?» murmura Nastassia à part soi avec une sorte de ton moqueur. Et elle éclata de rire. Un dénouement en coup de théâtre. Je ne m'attendais pas à ça. Mais qu'est-ce que vous faites tous debout, messieurs? Je vous en prie, reprenez vos places et adressez-moi tous vos vœux pour le prince. Il est le prince Mishkin et il me prend. Rogojine, lui, observait le visage déformé par un sourire immobile et incrédule. Vous entendez? Le prince, il me défendra toujours. C'est là qu'elle commence vraiment la vraie vie. Trop tard, Rogojine, reprends-le ton paquet. Je me marie avec le prince. C'est moi qui suis plus riche que toi. Rogojine fit un geste de désespoir. Un sanglot s'échappa de sa poitrine. Renonce ! Hurla-t-il au prince. Des rires fusèrent. Pour toi ? Il devrait renoncer pour toi, intervint Daria, une amie de Nastassia. Le prince, lui, il la prend comme épouse. Toi, tu es venu faire ta débauche, espèce d'ivrogne des tavernes. On devrait te mettre dehors. Prince, continua Nastassia, tu n'auras pas honte après si ta fiancée, elle a failli partir avec Rogojine. Et tu n'auras pas honte quand on te dira plus tard que ta femme, elle a été entretenue par Totski. Non, je n'aurai pas honte. Jamais, Nastassia Philippovna, je viens de vous dire que je prendrai votre accord comme un honneur. Je me suis peut-être exprimé de façon ridicule, mais je suis sûr que j'ai dit la vérité. À l'instant, vous avez eu l'envie de vous perdre, mais vous n'êtes coupable de rien. C'est impossible que votre vie soit complètement perdue dès à présent. Il faut veiller sur vous, Nastassia. Je veillerai sur vous. Je vous respecterai toute la vie. Merci. Prince, personne ne m'a encore parlé comme ça, reprit Nastassia. Tout le monde voulait m'acheter. Personne de bien ne m'avait jamais demandé en mariage. Que pensez-vous de ce que le prince m'a dit? Ce n'est presque pas décent. Rogojine, attends avant de partir. Je partirai avec toi, encore. Peut-être. Où est-ce que tu voulais m'emmener? Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas, ma petite fille, s'élança Daria, terrorisée. Quoi ? Tu croyais vraiment ? Fit Nastassia qui éclata de rire et bondit de son divan. Moi, un bébé, comme ça ? J'irai le tuer. On y va, Rogojine. Prépare ta liasse. Tu veux te marier ? Je veux bien. Mais ton argent, donne-le quand même. Moi aussi, je suis une débauchée. Prince, ce qu'il te faut maintenant, c'est Aglaïa et Panchina, pas Nastassia Philippovna. Toi, tu n'as pas peur. Mais j'aurais peur, moi, d'avoir fait ta perte. Et que tu me le reproches plus tard. Pas possible, sanglota le prince en se tordant les bras.
« On y va !» hurla Rogojine, presque hébété de joie. « Et vous, tout autour, du vin ?»«
Ouais ! Approche pas » cria-t-il encore, voyant Daria s'approcher de Nastasia. « Elle est à moi, à moi ! Fini !»«
Crie pas comme ça !» disait Nastasia, lui riant à la face. « Je suis encore chez moi. Donne-les-moi tes 100 000. »«
Peu, quelle saleté !»
« Regarde, prince, ta fiancée, elle a pris l'argent parce qu'elle est débauchée. Toi qui voulais la prendre. »«
Mais pourquoi tu pleures? C'est dur, peut-être ?»«
Laisse faire le temps, ça passera. »« Rogojine, tu es prêt ?»«
C'est prêt. Approche pas. Approche pas !» disait-il aux autres.
Nastasia se saisit du paquet et se dirigea vers Gania. « Alors écoute, Gania, je veux regarder ton âme pour la dernière fois. » Toi-même, ça fait 3 mois que tu me tortures. À présent, c'est mon tour. Tu vois ce paquet? Il y a 100 000 dedans. Je vais les jeter dans la cheminée, dans le feu, devant tout le monde. Dès que le feu l'aura pris complètement, vas-y, mais seulement sans tes gants, à main nue. Tu le ressors et il est à toi. Et moi, ton âme, je vais la regarder. Comment tu vas aller dans le feu rattraper mon argent? Arrière, tout le monde! Je fais ce que je veux.
Et elle jeta le paquet qui se mettait à brûler.
Je suis très maladroit.
Comme vous vous êtes trompé sur mon compte.
Les femmes de mon espèce doivent toujours jouer la comédie. Je n'ai fait cette grande scène que pour exaspérer Rogojine et tirer de lui le maximum, vous comprenez maintenant?
En brûlant les 100 000 roubles, en laissant à Totski tout ce qu'il vous a donné?
Prince, il faut savoir risquer pour décrocher les lustres. À jouer la biche traquée, la femme désintéressée. Voulez-vous savoir ce qu'en un mois j'ai su tirer de l'amour de Rogojine? Ses boucles d'oreilles. Les bijoux, c'est tout ce que j'aime. Allons, convenez que c'est bien joué.
La femme la plus malheureuse que je connaisse.
Mais vous êtes aveugle.
Je savais très bien que j'ai vu clair en vous dès la première seconde. Riez encore plus fort pour mon oreille à tous les mots, vous appelez au secours. Je vous entends crier de loin.
Que dois-je faire?
Pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir.
Non, c'est impossible.
Pourquoi? Cela dépend de vous seulement. Je suis certain que le pardon efface l'injure et les torts causés. Soyez simple. Redécouvrez le monde.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, l'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
6 mois ont passé. Mishkine a touché son héritage. Nastasia n'a finalement pas épousé Rogojine, retenue au dernier moment par l'amour sincère qu'elle portait au prince. Elle n'a cessé de le retrouver, de le fuir, craignant le faire souffrir, jusqu'à disparaître un temps de la société pétersbourgeoise. Mishkine, sans nouvelles d'elle, retrouve Rogojine abattue, désespérée d'avoir perdu Nastasia. Ils se jurent de se soutenir l'un l'autre, et se font la promesse d'être frères.
Tu sais, le soir où tu as enlevé Nastasia, je me suis senti seul à la pension et je me suis perdu dans les rues. C'était la première nuit de mon retour en Russie. J'ai rencontré un soldat ivre qui m'a offert une croix d'argent pour 20 kopecks. La croix était en plomb, il ne valait pas ce prix. J'ai dit oui quand même et j'ai passé le ruban autour de mon cou. Parfion, Dieu te regarde. Tu peux lui percer le cœur comme a fait ce soldat ou tu peux lui faire plaisir.
C'est 3, tu l'as sur toi?
Toujours.
Montre-la moi. Tu veux me la donner?
Oui. Tu me donneras la tienne en échange.
Oui.
Après l'avoir vue, le prince se perd dans les rues de la ville en proie à une angoisse indicible, se reprochant de n'avoir pu secourir ni Nastassia ni Rogojin, d'avoir échoué à sauver leur âme. Livre 2, chapitre 5. Il était presque 7 heures. Quelque chose d'obscur voila une seconde le soleil déclinant. Il faisait lourd. Cela ressemblait à une promesse d'orage encore lointaine. Il y avait quelque chose qui le tentait dans son état de contemplation. Il se collait par ses souvenirs et son esprit à tous les objets extérieurs. Et cela lui plaisait. Il avait toujours envie d'oublier quelque chose de vrai, d'essentiel. Mais au premier regard qu'il lançait autour de lui, il reconnaissait tout de suite, une fois encore, sa pensée noire, cette pensée dont il avait tellement envie de se défaire. Un désir extraordinaire, irrépressible, presque une tentation, figea brusquement toute sa volonté. Il sortit du jardin, allant tout droit vers le quartier de Pétersbourg. L'adresse, il la possédait depuis longtemps, mais il savait presque à coup sûr qu'il ne la trouverait pas chez elle. Une curiosité tout autre, noire, torturante, le tentait à présent. C'est une idée nouvelle, soudaine, qui lui était venue. Mais il lui devint tout de suite terriblement répugnant, oui, presque insupportable de réfléchir plus loin à son idée soudaine. Il plongeait ses regards avec une tension, une attention effrayante dans tout ce qui lui tombait sous les yeux. Il regardait le ciel, la Neva. Il se mit à parler avec un petit enfant qu'il rencontra. Peut-être aussi son état épileptique s'accroissait-il toujours, de plus en plus. L'orage, semblait-il, approchait réellement, mais lent, très lent. Un tonnerre lointain se faisait déjà entendre. L'air devenait réellement pesant. Le désespoir et la souffrance lui envahirent toute l'âme. Le prince voulut immédiatement revenir sur ses pas chez lui à l'hôtel, mais voilà qu'il était déjà dans le quartier de Pétersbourg, tout près de la maison. Et ce n'était pas avec le but précédent qu'il y allait, pas son idée précise. Et comment était-ce donc possible? Sa maladie revenait, oui, pas de doute. Peut-être sa crise allait-elle lui arriver à coup sûr aujourd'hui. Par-delà cette crise et toutes ces ténèbres, par-delà cette crise, l'idée. À présent, les ténèbres dispersées, le démon repoussé, les doutes n'existaient plus. La joie s'instaurait dans son âme. Et il y avait si longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Elle. Il fallait qu'il la voie. Et oui, il aurait voulu à présent rencontrer Rogojin. Il aurait pris sa main. Ils y seraient allés ensemble. Oui, il fallait maintenant que tout soit clairement posé, que chacun d'eux puisse lire en l'autre, qu'il n'y ait plus ces renoncements obscurs et passionnés, que tout cela s'accomplisse dans la liberté et la lumière. Un souvenir brûlant, torturant, traversa brusquement le cœur du prince. Oui, torturant. Il se souvint comme il se torturait naguère quand, pour la première fois, il avait commencé de remarquer chez elle des signes de folie. Alors il avait éprouvé presque du désespoir. Et comment avait-il pu la laisser? C'est lui qui aurait dû courir à sa recherche. À quoi bon pourtant se souvenir de tout cela? Il y avait là une folie de part et d'autre. Et pour lui, pour le prince, aimer passionnément cette femme, ça aurait été presque impensable, cruel, inhumain. Oui, oui, non, Rogojin se calomniait lui-même. Il a un cœur énorme, un cœur qui peut souffrir. La compassion donnera un sens, elle donnera un savoir à Rogojin. La compassion est la loi essentielle, la loi unique peut-être de l'existence de toute l'humanité. Oh, qu'il était coupable devant Rogojin, coupable sans rémission et sans honneur. Non, l'âme russe n'était pas que ténèbres. C'est dans son âme à lui qu'elles étaient, les ténèbres. Peu de temps après, Mishkin est victime d'une violente crise d'épilepsie. Logé dans la datcha de Lebedev, à Pavlovsk, le prince reçoit tous les jours de la visite. Affaibli par ses crises, il est contraint de faire face à plusieurs accusations concernant la gestion de sa fortune. Heureusement, la famille Epanchin est à ses côtés. Il ne les avait pas revus depuis son retour. Aglaïa lui témoigne beaucoup d'intérêt, allant jusqu'à lui déclarer en public toute son admiration. Mais aussitôt ses paroles prononcées, effrayée de ce que les autres pourraient penser d'elle, elle se met à l'attaquer violemment, se moquant de son ridicule et de son idiotie. Malgré tout, Mishkine est troublé par la jeune fille et commence à nourrir de forts sentiments à son égard. La générale, qui a bien remarqué leur manège, prévient néanmoins le prince que jamais il ne pourra épouser sa fille. Aglaïa est joueuse. Elle donne rendez-vous en secret à Mishkine dans un parc pour lui faire part d'une affaire urgente. Ce matin-là, il arrive un peu en avance, s'assoupit sur un banc et voit apparaître, en rêve, le visage de Nastassia. Livre 3, chapitre 8. Il dort. « Vous dormiez ?» s'écria-t-elle avec une surprise pleine de mépris. « C'est vous ?» murmura le prince. « Ah oui, ce rendez-vous, je dormais ici. J'ai vu. Il n'y avait personne ici à part vous ? Je pensais qu'il y avait une autre femme. Ici, une autre femme ? Oh, ce n'était qu'un rêve, dit-il d'une voix pensive. Asseyez-vous. Il lui prit la main et la fit asseoir sur le banc. Elle se mit à rougir. Je suis venue pour une chose sérieuse, commença-t-elle. Il faut que je vous apprenne beaucoup de choses. Mais dites-moi, de quelle femme avez-vous rêvé ? C'est... Vous l'avez vu ? Je comprends. Je comprends très bien. Vous l'a... beaucoup. Comment l'avez-vous vue en rêve ? Comment était-elle ? Remarquez, je ne veux même pas le savoir, coupa-t-elle avec dépit. Ne m'interrompez pas. Voilà ce dont il s'agit. Pourquoi je vous ai appelé. Je veux vous proposer d'être mon ami. Pourquoi me fixez-vous comme ça avec de grands yeux ? Ajouta-t-elle presque en colère. Vous... « Vous voulez peut-être refuser cette proposition ?»« Oh non, j'accepte. Mais c'est tout à fait inutile. C'est-à-dire, je ne pensais pas du tout qu'il y avait besoin de faire cette proposition, » répondit le prince, tout confus. « Parce que vous pensiez quoi ? Pourquoi vous aurais-je appelé ici ? Qu'avez-vous donc en tête ? Remarquez, vous me prenez peut-être pour une petite sotte comme ils font tous chez moi ? Non, ce n'est pas mon cas. » Aglaïa soudain s'empourpra de plaisir. Le prince se réjouit à son tour. Il éclata même de joie tant il était heureux en la regardant. « Écoutez, reprit-elle, je vous considère comme l'homme le plus honnête et le plus juste de tous les autres. Et si l'on dit parfois que vous avez l'esprit malade, c'est une chose injuste. Votre esprit, il est meilleur que celui de tous les autres. Meilleur même que le meilleur dont ils aient jamais pu rêver, parce qu'il existe deux esprits. Le principal et le non-principal, c'est cela, non ? Le cœur du prince tremblait, battait terriblement. Je savais que vous alliez comprendre. Mais écoutez, l'essentiel, j'ai longtemps réfléchi et finalement, je vous ai choisi, vous. Je ne veux pas qu'on se moque de moi chez moi. Je ne veux pas qu'on me prenne pour une petite sotte. Je ne veux pas qu'on m'agace. J'ai compris ça d'un coup. Je veux m'enfuir de chez moi. Et c'est vous que j'ai choisi pour que vous m'aidiez.
Vous enfuir de chez vous ?
Oui ! Oui, oui, m'enfuir, s'écria-t-elle, prise soudain d'une colère extraordinaire. Je ne veux pas qu'on m'oblige éternellement. Avec vous, je veux parler de tout, même du plus essentiel, quand j'en aurai envie. De votre côté, vous ne devez rien me cacher. Je veux être courageuse et n'avoir peur de rien. Je ne veux pas fréquenter leurs bals. Je veux être utile. Il y a longtemps que je voulais partir. Ça fait 20 ans que je suis en prison chez eux et ils me marient sans cesse. On m'interdit, on me surveille. Je veux m'enfuir de chez moi. Et si vous refusez, eh bien, j'épouse Gania.
Mais vous êtes folle, fit le prince qui faillit bondir de son banc.
Je ne suis jamais allée nulle part. Je suis toujours restée chez moi, enfermée comme dans une bouteille. Pourquoi souriez-vous encore ? Vous moquez de moi ? Vous êtes de leur côté ? Je suis sûre que vous êtes venue ici absolument persuadée que je vous appelais à un rendez-vous, coupa-t-elle d'une voix agacée. Ne me regardez pas dans les yeux, je vous prie. Détournez-vous. Je ne vous aime pas du tout.
Vous êtes très injuste envers moi.
Parce que je sais tout. Oui, tout. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette façon. Je sais qu'il y a 6 mois, devant tout le monde, vous avez proposé votre main à cette sale femme. Après ça, elle s'est enfuie avec Rogojin. Après, vous avez vécu avec elle dans un village. Après, elle est encore revenue chez Rogojin, qui l'aime comme un fou. Après, vous, maintenant, vous avez couru ici à sa poursuite dès que vous avez appris qu'elle était rentrée à Pétersbourg et vous venez de rêver d'elle. C'est bien pour elle, n'est-ce pas, que vous êtes venu ici ?
Oui, c'est pour elle, répondit le prince d'une voix douce. Je ne crois pas en son bonheur avec Rogojin. Bref, je ne sais pas comment j'aurais pu l'aider, mais je suis venu.
Si vous êtes revenu sans savoir pourquoi, c'est donc que vous l'aimez très fort, murmura-t-elle enfin.
Non, répondit le prince. Non, je ne l'aime pas. J'ai seulement pitié d'elle. Mishkine, en effet, veut à tout prix sauver son ancien amour du trouble où elle s'est perdue. Aglaïa lui apprend qu'elle a reçu de la part de Nastassia trois lettres lui demandant de l'épouser, l'assurant que Mishkine a toujours voulu épouser la Benjamine des Epanchines. Le prince récupère ces lettres, il les lit et mesure à la fois tout l'amour, jusque-là inavoué, que Nastassia lui a toujours porté, mais aussi sa folie incurable. Dans ce même parc, il la croise de manière impromptue. Elle lui annonce qu'elle s'en va, une fois de plus, avec Rogojine, et lui souhaite d'être heureux. Désemparé, le prince rejoint les Epanchines. Aglaïa, qui n'a pas réussi à s'enfuir, continue de lui manifester de la colère. Un soir, Mishkine se sent fiévreux et subit devant tout le monde une crise d'épilepsie. Après avoir récupéré ses esprits, il prend la parole, exprimant tout ce qu'il ne leur a jamais dit, la vanité de l'existence et des hommes qui oublient d'être heureux. Livre 4, chapitre 7. Je veux tout expliquer. Tout. Tout. Oh oui. Vous me prenez pour un utopiste? Un idéologue? Oh non, je vous jure, j'ai des idées si simples. Vous ne me croyez pas? Vous souriez. Vous savez, il m'arrive d'être lâche parce que je perds la foi. Tout à l'heure, je venais et je me demandais... Comment est-ce que je leur parlerai? Par quels mots faut-il que je commence pour qu'ils comprennent au moins quelque chose? Comme j'avais peur. Mais c'est pour vous que j'avais peur le plus fort. C'était terrible. Terrible. Et pourtant, pouvais-je donc avoir peur? N'était-ce pas scandaleux que j'ai peur? Quelle importance si pour un homme d'avenir il y a une telle foule de rétrogrades et de méchants? Mais ma joie est bien là que maintenant, je suis convaincu que ce n'est pas une foule, mais du matériau vivant. Nous n'avons pas non plus à nous troubler si nous sommes comiques, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que nous sommes comiques. Nous sommes frivoles. Nous avons de mauvaises habitudes. Nous nous ennuyons. Nous ne savons pas regarder. Nous ne savons pas comprendre. Mais nous sommes tous pareils, oui, tous, et vous, et moi, et eux. Et vous, n'est-ce pas? Vous ne vous offusquez pas si je vous le dis en face, que vous êtes comique. Vous savez, à mon avis, être comique de temps en temps, ce n'est pas si mal. Et même, c'est bien. C'est plus facile de se pardonner les uns les autres. C'est plus facile de faire la paix. On ne peut pas tout comprendre tout de suite. On ne commence pas tout de suite par la perfection. Pour atteindre la perfection, il faut commencer par ne pas comprendre beaucoup de choses. Et si nous comprenons trop vite, je crois bien, il y a plein de choses que nous ne comprendrons pas. Maintenant, j'ai peur pour vous tous, et pour nous tous ensemble. Moi-même, n'est-ce pas, je suis un prince de souche, et je suis là parmi des princes comme moi. Je parle, moi, pour nous sauver tous, pour que toute notre classe ne s'écroule pas pour rien, dans les ténèbres. Sans avoir rien compris, en se disputant tout, en ayant tout perdu. Pourquoi disparaître et laisser la place aux autres quand nous pouvons rester à l'avant-garde et rester les aînés? Devenons les serviteurs pour être ceux qui guident. Écoutez, je sais que c'est mal de parler. Est-il possible d'être malheureux? Oh, qu'est-ce donc que ma douleur et mon malheur si j'ai la force d'être heureux? Vous savez, je ne comprends pas comment on peut passer devant un arbre et ne pas être heureux parce qu'on le voit. Parler avec quelqu'un et ne pas être heureux parce qu'on l'aime. Oh, seulement, je ne sais pas l'exprimer. Et il y a tant de choses, à chaque pas, qui sont si belles, que même l'homme le plus perdu du monde est obligé de les trouver belles. Regardez un enfant. Regardez l'aube de Dieu. Regardez un brin d'herbe, comment il pousse. Regardez les yeux qui vous regardent, qui vous aiment. Il était debout depuis longtemps. Aglaïa accourut vers lui, Elle eut le temps de le recevoir dans ses bras, et c'est avec effroi, le visage déformé de douleur, qu'elle entendit le cri sauvage de l'esprit bouleversé et déchu du malheureux. Le malade gisait sur le tapis. Quelqu'un avait eu le temps très vite de lui glisser un coussin sous la nuque.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
C'est exactement une traite.
Une sorte d'emprunt.
Alors, Vladimir Petrovitch ne serait pas riche?
Oh, il est peut-être un peu gêné dans ses affaires, mais il m'a donné sa parole d'honneur que l'histoire était inventée de toutes pièces.
Attention, tu vas donner ta fille à un homme qui a des ennuis d'argent. Moi vivante, le sort de mes enfants ne se réglera pas sur un coup de dé. D'ailleurs, Aglaé ne l'aime pas. Non seulement Aglaé ne l'aime pas, mais elle en aime un autre.
Qui?
Le prince.
Idiot.
Mishkine apprend que Nastasia et Aglaïa vont se rencontrer pour s'expliquer. Rogojine doit assister à cette entrevue. Le prince décide d'y aller lui aussi. La discussion est houleuse, les deux femmes se disputant l'amour du même homme. Déchirées entre elles deux, Mishkine ne parvient à en garder qu'une auprès de lui. Récupérant Nastasia sur le point de s'évanouir, Mishkine n'a pas vu Aglaïa s'enfuir en pleurant. Le prince, empêché de voir Aglaïa, s'engage à épouser Nastasia et à la rendre heureuse. Mais la culpabilité le ronge. Il se confie à un ami, le général Yevgeny Pavlovitch. Livre 4, chapitre 9.
Et vous croyez que cela suffit ? S'écria indigné Yevgeny Pavlovitch. Est-ce qu'il suffit de s'écrier « Ah, je suis coupable » ? Vous êtes coupable. Et vous restez dans votre obstination. Mais votre cœur, où est-il ? Oui, votre cœur chrétien. Vous avez permis tout cela.
Oui, mais ce n'est pas que j'ai permis, marmonna le malheureux prince.
Comment vous n'avez pas permis ?
Mais non, vraiment, je ne permettais rien du tout. Je ne comprends toujours pas comment cela s'est passé. J'ai couru derrière Aglaïa et Nastasia a perdu connaissance. Et puis on me refuse toujours de voir Aglaïa.
Ça ne fait rien. Vous deviez vous précipiter derrière Aglaïa même si l'autre avait perdu connaissance.
Oui, je devais. Mais elle serait morte. Elle se serait tuée, vous ne la connaissez pas. Et de toute façon, j'aurais tout raconté après Aglaïa et... Oh mon Dieu, je me souviens de son visage au moment où elle s'est enfuie. « Allons-y. »«
Où ça ?»«
Mais chez Aglaïa. Allons-y maintenant !» cria le prince.
« Mais elle n'est pas à Pavlovsk, je vous l'ai dit. Et à quoi bon y aller ? »
Elle comprendra, marmonna le prince en joignant les mains comme pour une prière. Elle comprendra que tout ça n'est pas ça, que c'est quelque chose de complètement différent.
Comment ça, complètement différent? Mais tout de même, vous vous mariez avec Nastasia, non? Donc vous vous obstinez, vous vous mariez, oui ou non?
Mais oui, je me marie, oui. Oui, je me marie.
Alors comment, ce n'est pas ça?
Oh, ça ne fait rien, que je me marie, non, aucune importance.
Comment rien du tout et aucune importance? Ce ne sont donc que des broutilles, ça aussi? Vous épousez une femme que vous aimez pour faire son bonheur. Aglaïa voit cela, elle le sait. Comment donc est-ce que ça n'a pas d'importance?
Son bonheur, oh non, je me marie seulement comme ça. C'est elle qui veut, et puis je l'aime de toute mon âme, c'est une enfant. Oui, une enfant complète.
Et en même temps, vous assuriez à Aglaïa que vous l'aimiez.
Oh oui, oui.
Comment ça, mais... Donc vous voulez aimer les deux?
Oh oui, oui.
Yevgeny Pavlovitch repartit avec des convictions étranges. À son avis, il en résultait que le prince n'était pas tout à fait sain d'esprit. Et comment ça, en aimer deux? Avec deux amours différents ou je ne sais pas? Intéressant. Le pauvre idiot. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant?
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Louis Deloncle à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.